sur PFM, la séquence pour comprendre. Quatrième séquence proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Paul Masson, je rappelle que vous êtes formateur d'adultes, militant de l'éducation populaire, membre de Culture et Liberté et d'Attaque. Alors aujourd'hui, quatrième séquence déjà de la série intitulée « Pour comprendre le système de protection sociale ». Aujourd'hui, on va parler des différentes réformes qui sont possibles du système de protection sociale. Est-ce que rapidement, on peut faire une synthèse des trois séquences précédentes ?
Alors, on a commencé par voir comment le financement de la protection sociale, on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas comprendre les réformes de la protection sociale, que ce soit celle des retraites, de la santé, mais aussi des ACEDIC. On ne peut pas le comprendre si on prend en compte seulement l'analyse financière. On a vu qu'il y avait tout un tas d'autres paramètres qu'il fallait prendre en compte. C'était la première séance. Au cours de la deuxième séance, on a essayé de comprendre sur quoi avait été construit notre système de protection sociale. Celui qui est remis en cause par les réformes actuellement. Et on a vu que ce système de protection sociale, je cite, avait pour but d'assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail.
Donc d'où vient cette citation ? On peut le rappeler peut-être ?
C'est le programme du Conseil national de la résistance qui décide qu'on va avoir ce type de protection sociale, qui décide qu'il s'agit de mettre en place une retraite décente pour permettre aux vieux travailleurs de finir leur jour. C'est ce choix de 1945 qui fonde notre protection sociale, celle qui est remise en cause progressivement. On a vu, et c'est la troisième séance, que par rapport à ce système de protection sociale pensé en 1945, en cohérence avec ce qui était demandé à l'État de garantir. Progressivement, on va passer à la protection sociale, c'est de la gestion, avec la réforme Pompidou. Et progressivement, le modèle dominant va nous être donné, je reprends la citation du directeur d'AXA, la santé, c'est un marché qui doit être traité comme celui de l'automobile. La retraite, c'est notre capacité d'épargne qui décidera de la retraite qu'on aura ou qu'on n'aura pas. Vous voyez que progressivement, ce qui a changé, c'est la vision de la retraite.
Donc aujourd'hui, quatrième séquence, on va parler d'alternatives. On entend souvent qu'il n'y a pas justement d'alternative de la réforme du système de protection sociale et qu'il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, par rapport à ça, je dis qu'autour de ce système de santé, effectivement, il y a différents types de réformes et il y a différentes possibilités d'agir par rapport à ça. Mais le type de réforme qu'on va mettre en fait va être lié à différents types d'enjeux. Et en gros, on pourrait dire on a un enjeu du MEDEF qui apparaît très très clairement. Les enjeux pour le MEDEF, c'est d'une part permettre aux entreprises de se dégager de leurs responsabilités par rapport à la rémunération des anciens travailleurs. Les travailleurs ont travaillé, on n'en veut plus. Avec le système des retraites par répartition, le travailleur qui a travaillé toute sa vie, c'est toujours l'entreprise qui a le souci, qui est chargée de le rémunérer. Ce qui est normal, puisque c'est par son travail que la valeur a été créée. Deuxième enjeu pour le MEDEF, c'est casser l'organisation collective des salariés. On l'a vu à l'occasion de la réforme Balladur, où finalement la réforme Balladur a fait passer de 40 ans de cotisation à 37 ans et demi les salariés du privé et pas ceux du public. Et puis la réforme de Raffarin fait passer ceux du public de 37 ans et demi à 40 ans. Et ensuite, on va jouer en cassant l'organisation collective des salariés, de faire en sorte de baisser un coup l'un, un coup l'autre, pour diviser, pour mieux régner. Troisième enjeu pour le MEDEF, Et derrière le MEDEF, c'est la vision de la mondialisation libérale. Hein. Rattacher la retraite ou rattacher la santé au marché et à la capacité d'épargne. J'aurai une retraite parce que j'aurai été capable d'épargner. Je n'aurai plus une retraite parce que je l'ai acquis par mon travail. C'est celui qui a droit à la retraite, c'est celui qui a la capacité d'épargner, c'est plus celui qui a travaillé. C'est plus lié au travail. Je peux avoir une bonne retraite sans avoir travaillé, et je peux ne pas avoir de retraite en ayant travaillé toute ma vie. Quatrième enjeu, actuellement, la protection sociale mutualisée, la retraite, la sécurité sociale, représente 20% du produit intérieur brut. 20%, ça fait le cinquième du produit intérieur brut. Et sur le cinquième du produit intérieur brut, les entreprises capitalistes ne peuvent pas faire de bénéfices, puisque ce n'est pas capitalisé, puisque ce n'est pas du capitalisme. C'est géré d'une manière autonome. Il y a un manque à gagner sur la possibilité de faire du bénéfice. D'où les sociétés d'assurance qui disent « là, il y a un marché et on veut pouvoir faire du bénéfice dessus ». Il y a quatre enjeux pour le MEDEF et pour le modèle libéral. Par rapport à ça, pour nous, quels sont les enjeux pour la majorité des citoyens ? Il y en a deux. Le premier enjeu, c'est est-ce qu'on réussira à continuer d'avoir un système de protection sociale qui soit pensé pour tout le monde et dont tout le monde ait droit. C'est le droit à la santé. C'est le droit à la retraite qui est en jeu. Le deuxième enjeu, et il n'est pas mince, c'est la possibilité de se soigner. Je vais donner un seul chiffre. 60% des dépenses de santé sont dépensé par 5% de la population. C'est énorme. Pourquoi ? Parce que ceux qui dépensent la santé, c'est les malades. Et comment ces personnes malades pourraient mettre en place un système de protection individualisé qui leur permettrait d'être soignés ? Il faudrait qu'ils passent plus de 50% de leurs revenus pour ne pas prendre de risques. Ce qui est impossible. C'est-à-dire, si on veut un droit à la santé, on est obligé de rester sur la mutualisation.
Donc on est obligé de passer par un système qui soit solidaire et pas individualiste.
Le système individualiste, le système des assurances, ne permet pas de se garantir contre la maladie. Et qui peut dire « mais moi je ne suis pas concerné par la maladie ». Autre élément, c'est la majorité des dépenses de santé se joue sur les 6 derniers mois de la vie. Je suis en bonne santé, j'ai toujours été en bonne santé. Et un jour, je ne suis pas en bonne santé. Et à ce moment-là, comment je fais ? La solidarité et la mutualisation des risques est généralisée, est le seul moyen de pouvoir garantir un système de santé. L'enjeu autour de la protection sociale, ce n'est pas un enjeu de sous, c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu d'organisation sociale.
Donc, dans ce contexte, quelles seraient les différentes possibilités de réforme du système de protection sociale ?
Par rapport à la protection sociale, en gros, on a trois grands axes, trois grandes options qui s'ouvrent, qui se font jour, qui sont présentées comme alternatives. Il y a le premier axe qui consiste à dire la santé, c'est un droit, et c'est par la solidarité nationale qu'on peut le régler. On reste dans la logique de 1945, restera à voir le territoire le plus pertinent. Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est l'Europe ?
La région peut-être ?
Peut-être la région. Il va y avoir des régions qui seront bien plus pauvres et d'autres bien plus riches, donc on aurait le droit à la santé dans les régions riches et dans les régions pauvres. Par contre, le territoire national avec l'Europe, peut-être bien que le territoire de l'Europe est plus pertinent. Mais ce n'est pas l'Europe qu'on est en train de nous construire dans la Constitution. Ça se demanderait qu'on pense une Europe reposant sur la solidarité et pas sur le libre marché. Ça, c'est la première option. On reste dans la logique de 1945. On reste dans la logique des gens qui se sont battus pour qu'on ait une société de justice sociale. Deuxième option. c'est l'option qui est proposée par les firmes pharmaceutiques, qui est par les sociétés d'assurance. La santé est un marché. Allez faire vos achats de santé sur ce marché. Vous voulez des lunettes très chères, vous payez des lunettes très chères. Vous voulez pas des lunettes très chères, vous payez des lunettes pas chères. Vous avez pas des moyens pour acheter des lunettes, eh bien, vous avez pas de lunettes. C'est l'option libérale. Et puis, on a une troisième option qu'on a vue avec l'aspect du CMU, qui est un petit peu ce modèle-là que nous est présenté par la communauté européenne. En gros, c'est le modèle libéral. La santé, c'est un marché. Mais qui a conscience que ce marché fait du dégât considérable. Et alors, on va avoir le filet de sécurité qui fait que, d'accord, la majorité des gens ne pourront pas avoir droit à un système de santé. Mais on va mettre en place des garanties pour que les personnes ne meurent pas dans la rue. C'est le système de la CMU, c'est le système d'un minimum qui serait donné. Toutes les réformes qui sont mises en place actuellement vont dans le sens du marché. Voilà en gros les axes.
C'est la fin de cette quatrième séquence pour comprendre le système de protection sociale. Alors, vous êtes invité, vous, auditeurs de PFM, à réagir à ces séquences, soit par téléphone au 03 21 50 99 99, soit par email à l'email suivant pfm@nordnet.fr, Nordnet, N-O-R-D-N-E-T. Et dans une cinquième séquence éventuelle, nous répondrons aux questions qui ont été posées par téléphone ou par mail. Paul Masson, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, certainement, même heure, même fréquence.
Merci.